Chapitre 13. Négociation. Un seul homme armé du mot juste peut accomplir ce qui sera impossible à une légion de soldats. Proverbe montagnard. Je rapportais l'attitude de Tram à Imbre, naturellement, qui en rendit compte à la reine. C'est ainsi que, lorsque débuta la réunion du lendemain, à laquelle assistaient les mandataires des six duchés, elle fit en sorte qu'il eut le premier l'occasion de s'exprimer. Accroupi derrière mon mur, l'œil à la fente, je ne perdais rien des échanges. Avant de lui donner la parole, elle le présenta aux envoyés du royaume comme le descendant de la plus ancienne famille du lignage et déclara désirer qu'on le traitât avec la plus grande courtoisie. Toutefois, quand elle lui céda la place, il assura l'assemblée qu'il n'était qu'un humble pêcheur, dont le hasard seul voulait qu'il fût issu d'une lignée d'ancêtres plus sages qu'il ne le serait jamais. Là-dessus, d'une façon si abrupte que j'en restais le souffle coupé, il exposa ses propositions pour mettre fin à l'injuste persécution des vifiés. S'adressant autant à ses compagnons qu'à la reine, il suggéra que la meilleure méthode pour réunir les deux communautés consisterait peut-être à introduire quelques vifiés dans l'entourage royal. Il évoquait plus un sage de Jaamp en train de régler une querelle qu'un porte-parole du lignage, et ma reine l'écoutait les yeux brillants. Je vis non seulement Imbre, mais aussi deux représentants au moins des six duchés acquiesçaient de la tête d'un air songeur à ses conclusions. Pas à pas, il dévoila le raisonnement qui l'y avait conduit. Pour lui, il fallait attribuer les persécutions en grande partie à la peur, et la peur en grande partie à l'ignorance, qu'il imputait à l'obligation des vifiés de se dissimuler pour survivre. Pour commencer à combattre l'ignorance mieux qu'au sein même de l'entourage de la reine. Qu'une femme du lignage douée d'affinité avec les oiseaux travaille à la fauconnerie, et qu'un garçon lié à un chien donne la main à la grand-veneuse, que sa majesté prenne un page ou une servante personnelle, douée du vif afin de montrer à tous qu'ils n'étaient en rien différents des pages et servantes dépourvues de leur talent. Que les nobles constatent que ces gens ne nuisaient nullement à son service, ni au travail de ses domestiques, mais au contraire, les amélioraient. La reine s'engagerait naturellement à les protéger, tant que ceux qui œuvreraient à leur côté ne se seraient pas montrés fermement convaincus. De leur côté, ceux du lignage ainsi introduit prêteraient serment de ne provoquer aucune friction. Puis, avec une égalité de ton qui me laissa bouche bée, il offrit ses propres services à la reine, avec la courtoisie et la correction d'un rejeton d'aristocrate, à tel point que je me pris à douter qu'il fût bien issu d'une famille de pêcheurs. Il mit un genou en terre devant Ketriken et la pria de l'autoriser à demeurer à Castelserre après le départ de ses compagnons, à vivre au château afin d'apprendre et d'enseigner à la fois. Évitant soigneusement de dévoiler le secret du prince devant les conseillers des six duchés, il se proposa néanmoins de devenir son professeur, précepteur certes rustique, mais qui se ferait une joie d'instruire le prince sur la vie et les coutumes du lignage, afin qu'il approfondisse ses connaissances sur cette communauté de ses sujets. Imbre intervint.
« Mais si nous ne vous rendons pas au vôtre comme nous en avons pris l'engagement, certains n'iront-ils pas affirmer que nous vous retenons contre votre volonté ?»
Je soupçonnais mon vieux mentor de voir d'un mauvais œil un membre du lignage conseiller du prince. Son inquiétude fit rire Tram. Chacun dans cette salle est témoin que je vous propose mes services de mon plein gré. Si, une fois repartie notre délégation, vous décidez de me démembrer et de brûler mon cadavre, qu'on en fasse reproche à mon seul entêtement et à mon manque de discernement. Mais je ne pense pas avoir à craindre une telle fin, n'est-ce pas, madame ?»«
Assurément non, » s'exclama Ketriken. « Et quoi qu'il résulte par ailleurs de ces réunions, je considère d'ores et déjà comme un bénéfice de compter désormais dans mon entourage un homme à l'esprit aussi clair. »
L'analyse soigneuse de la situation et les suggestions de Tram avaient pris toute la matinée. Quand l'heure du déjeuner sonna, il déclara qu'il mangerait parmi ses nouveaux amis de la salle des gardes, après quoi il leur présenterait sa mouette. Avant qu'Imbre pût émettre une protestation, la reine annonça qu'elle se joindrait à eux, ainsi que son conseiller et les délégués des six duchés, car elle aussi souhaitait faire la connaissance de risques. Comme j'aurais aimé assister à cette scène. J'aurais voulu y participer, certes, mais surtout voir la tête des gardes se découvrant honorée de la présence de la reine à leur table.
Tram se trouverait grandi à leurs yeux d'avoir été l'agent d'un tel événement, et sans doute ils se presseraient plus nombreux autour de l'oiseau, si la reine elle-même ne manifestait nulle crainte de sa bête de vif. Mais en l'absence d'Imbre dans la salle de réunion, j'étais bloqué à mon poste d'observation. Les délégués du lignage ôtèrent leurs masques après qu'on leur eut servi le repas, et comme précédemment, Genot et Mercureuil évoquèrent avec véhémence les injustices passées et les réparations qu'ils jugeaient nécessaires. Cependant, ils n'étaient plus les seuls à parler. Certains commentaient avec étonnement l'intervention de Tram, et j'entendis au moins une femme affirmer que, connaissant à présent Kétriken, elle n'hésiterait pas à lui confier un de ses fils comme page, car on disait qu'on apprenait les chiffres et l'écriture à tous les enfants du château. Un jeune homme, sans doute ménestrel d'après son timbre de voix, songeant tout haut, tentait de s'imaginer quelle impression il ressentirait à chanter des ballades du lignage au coin de la cheminée de la reine, et se demandait si cela ne serait pas le meilleur moyen d'enseigner aux non-vifiés que ses semblables n'avaient rien d'effrayant ni de monstrueux. Une brèche s'était ouverte. Les possibilités de l'avenir prenaient de la vigueur et croissaient à l'éclat de l'optimisme de Tram. Grandirait-elle assez pour plonger dans l'ombre les mauvaises herbes des torts passés? Hélas, l'après-midi, long et ennuyeux, se révéla décevant. Au retour de la reine et de ses conseillers accompagnés de Tram, Genot se leva et demanda la parole. Prévenu à son sujet par Imbre et moi-même, ma reine l'écouta calmement énumérer les préjudices que les loin-voyants avaient infligés de tout temps au lignage, puis donner les détails de son cas particulier. Kétriken put là enfin le museler. D'un ton ferme, mais courtois, elle déclara que, pour l'heure, son rôle n'était pas de réparer les dommages personnels. Si on avait indûment dépouillé sa famille de ses terres et de sa fortune, la question devait être portée à son attention lors d'une journée de justice, et non aujourd'hui. Imbre l'aiderait à prendre le rendez-vous nécessaire et lui indiquerait les pièces à présenter, dont la plupart viseraient, sans doute, à dégager clairement une ligne de succession le reliant à son ancêtre dépossédé, y compris un ménestrel capable d'attester de sa relation directe par les aînés avec cet aïeul. Très adroitement, elle réussit à donner l'impression qu'il faisait passer ses intérêts personnels avant ceux de ses compagnons, ce qui était le cas. Sans refuser de lui rendre justice, elle refoula sa requête sur la voie que devait emprunter n'importe quel citoyen des six duchés, et elle rappela à l'Assemblée que sa convocation avait pour objectif une réflexion commune sur la façon de mettre fin à la persécution du lignage. Mercureuil souleva une vase plus difficile à faire retomber. Elle parla des assassins de sa famille. Sa voix forcit, empreinte de colère, de haine et de douleur, et je vis ses émotions se peindre sur bien des visages autour d'elle. Tram paraissait abattu et attristé, et les traits de ma reine se figèrent peu à peu, tandis que ceux d'Imbre semblaient sculptés dans la pierre. Mais la colère engendre souvent la colère, et la mine des représentants des six duchés s'assombrit progressivement pour se pétrifier en un masque maussade. La femme exigeait une vengeance et un châtiment bien trop extrême pour qu'on songeât seulement à les lui accorder. On eût dit qu'elle avait imposé une distance impossible à franchir d'un bond et déclaré qu'elle n'en retrancherait pas un pouce. Il n'existait pas d'autre moyen d'arrêter la persécution du lignage, selon elle. Il fallait en faire un crime puni de façon si terrible que nul n'oserait plus imaginer de le commettre. On devait en outre traquer et éliminer tous ceux qui avaient participé aux atrocités dont avaient été victimes des membres du lignage ou qui les avaient tolérés. Prenant sa douleur personnelle comme point de départ, Mercureuil étendit ses doléances à tous les vifiés exécutés au cours du siècle écoulé, exigea sanctions et réparations, les punitions devant refléter exactement ce qu'avaient subi les victimes. Avec sagesse, ma reine la laissa parler jusqu'à essoufflement complet de son discours. Je n'avais sûrement pas été le seul à sentir la folie percer sous ses exigences. Cependant, si c'était le chagrin qui alimentait cette folie, qui étais-je pour la critiquer? Quand Mercureuil se tut, plusieurs de ses compagnons s'engouffrèrent dans la brèche pour reprendre l'énumération des exactions infligées à leur communauté. On désigna nommément des gens qui méritaient la mort, et la fureur se mit à tournoyer dans la salle comme une tornade naissante. Mais ma reine leva la main et demanda d'un ton calme. « Où faudrait-il s'arrêter dans ce cas ?»« Au châtiment des derniers coupables !» déclara Mercureuil avec feu. « Que les gibets craquent sous leur poids et que la fumée de leur bûcher assombrisse le ciel tout l'été !»« Que j'entende leur famille se répandre en lamentations, semblables à celles que nous avons dû cacher par peur d'être reconnus comme membres du lignage. Que les sanctions soient exactement proportionnées au crime. Pour un père tué, qu'un père meure. Pour une mère, pour un enfant, un enfant. »
La reine soupira. « Et quand ceux qui auront souffert de votre vengeance viendront me demander vengeance à leur tour, comment pourrais-je la leur refuser? Vous proposez, si un homme a tué les enfants d'une famille du lignage, qu'on exécute ses propres enfants en même temps que lui. Mais que faites-vous des cousins de ses enfants et de leurs grands-parents? Ne serait-il pas normal qu'ils viennent réclamer ce que vous exigez aujourd'hui? Ne seraient-ils pas en droit, eux aussi, de soutenir que des innocents ont été victimes d'une persécution aveugle? Non, c'est impossible. Vous me demandez ce que je ne puis vous donner. Vous le savez fort bien. » Le regard de Mercureuil étincela de haine et de rage.
« Je m'en doutais, » déclara-t-elle avec aigreur. « Vous n'avez que des promesses creuses à nous dispenser.
Je vous offre la justice, à laquelle tout habitant des Siduchés est en droit de prétendre, » répondit la reine avec lassitude. « Présentez-vous devant moi un jour où je la rends, avec des témoins et des torts qu'on vous a faits. S'il y a eu meurtre, le meurtrier sera puni, mais pas ses enfants. Ce à quoi vous aspirez n'est pas justice, mais vengeance.
« Non, vous n'avez rien à nous offrir !» s'exclama la femme. « Vous savez bien que nous n'osons pas venir protester devant vous. Trop de gens se dresseraient entre Castelcerf et nous, prêts à nous tuer pour nous réduire au silence. »
Elle s'interrompit. La reine Kétriken restait sans réaction devant sa fureur. Et elle commit l'erreur de presser ce qu'elle prenait pour un avantage.
« À moins que ce soit votre intention, reine loin-voyant !»
Elle parcourut l'assistance d'un regard empreint d'une juste colère.
Agite-t-elle de vaines promesses pour mieux nous attirer à découvert et se débarrasser de nous?
Le silence tomba un instant à la suite de ces paroles, puis Kétriken déclara d'un ton calme. Vous jetez des mots auxquels vous ne croyez pas vous-même, dans le but de blesser. Toutefois, si vos accusations avaient le moindre fondement, je ne me sentirais pas meurtri, mais plutôt justifié de haïr le lignage.
« Vous avouez donc haïr le lignage ?»
lança Mercureuil, sûr de son bon droit.
« Je n'ai pas dit cela !»
répliqua Kétriken d'un ton où se mêlaient l'horreur et la colère. Les esprits s'échauffaient, et pas seulement dans les rangs des vifiés. Les conseillers des Siduchés paraissaient outragés, mais aussi effrayés devant la tempête qui s'amoncelait dans la salle. J'ignore comment auraient tourné les négociations si le destin n'était pas intervenu en la personne de la femme à la vache. Elle se leva soudain et dit
« Je dois me rendre aux écuries. L'heure est venue pour Sage-Mufle et elle souhaite ma présence. »
Un rire résigné éclata dans le fond de la pièce et quelqu'un d'autre gira
« Tu savais qu'elle était sur le point de mettre bas, pourquoi l'avoir amenée ?
Tu aurais préféré que je la laisse seule chez nous ou que je ne vous accompagne pas, Célan ? Tu me prends pour une écervelée, je le sais, mais j'ai autant le droit que toi de me trouver ici. »
« Du calme !»
déclara Tram, tout à coup d'une voix rauque. Il s'éclaircit la gorge et répéta
« Du calme. Le moment en vaut un autre pour laisser le temps aux esprits et aux cœurs de s'apaiser. Et, si Sage-Mufle a besoin de sa compagne, nul ne s'opposera au départ de notre camarade, j'en suis sûr. Moi-même, je lui apporterai mon aide, si elle le souhaite, et peut-être qu'à notre retour, chacun ici se sera rappelé que nous cherchons une solution à notre situation actuelle, non un moyen de modifier le passé, si douloureux qu'il soit. »
Je pris alors conscience que Tram dominait l'assemblée, mieux que la reine elle-même. Mais je doute qu'aucune des personnes présentes dans la salle s'en aperçût. C'est l'avantage d'observer de l'extérieur. Comme Ambre me l'avait souvent répété, tout devient spectacle et l'on étudie tous les acteurs avec une parfaite égalité de jugement. La délégation des Siduchés sortit derrière la reine et son conseiller, puis Tram se mit en route pour les écuries, avec la femme à la vache. Je demeurai à mon poste, pensant surprendre des échanges des plus révélateurs. Je ne m'étais pas trompé. Certains, parmi lesquels le ménestrel et la femme qui envisageait de placer son fils comme page auprès de la reine, demandèrent à Mercureuil si elle était prête à étouffer dans l'œuf leur avenir au nom d'un passé auquel il n'était point de remède.
Même Genot semblait estimer qu'elle avait poussé trop loin ses exigences.
« Si cette reine loinvoyant est femme de parole, peut-être pourrons-nous soumettre nos doléances à sa justice. On l'a dit équitable dans ses décisions. Nous devrions peut-être accepter son offre. »
D'une voix sifflante, Mercureuil répliqua.
« Vous êtes tous des lâches, des couards et des lèche-bottes. En échange d'un pot de vin, la sécurité d'un ou deux de vos enfants, vous êtes prêts à tirer un trait sur le passé ? Avez-vous oublié les hurlements de vos cousins, les amis à qui vous rendiez visite et dont vous ne retrouviez comme seule trace qu'un tas de cendres près d'une rivière ? Comment pouvez-vous trahir ainsi votre propre sang ? Comment pouvez-vous oublier ?
Comment ?
Ce n'est pas ce qu'on oublie qui importe, mais ce qu'on garde en mémoire. »
Celui qui parlait ainsi était un homme auquel je n'avais pas attaché d'attention particulière jusque-là. D'âge moyen, frêle, d'apparence citadine. Mauvais orateur, il avalait la moitié de ses mots, en jetant des regards inquiets autour de lui, mais tous l'écoutaient pourtant.
« Je vais vous dire ce dont je me souviens, moi. Je me souviens que, quand on est venu prendre mes parents dans leur chaumière, c'était à cause d'un pis qui les avait dénoncés, et qu'un autre pis faisait partie de la bande qui les a pendus et démembrés. La secte de Lodvin avait eu l'audace de déclarer mes parents traîtres au lignage et de menacer de les châtier parce qu'ils refusaient de donner asile à ceux qui attisaient la haine contre nous. Qui a véritablement trahi ce jour-là ? Mes parents, qui souhaitaient seulement vivre dans la paix qu'on voulait bien leur laisser ? Ou le pis qui portait la torche dont la flamme a brûlé leurs cadavres ? Nous avons des ennemis bien plus redoutables que cette reine loinvoyant, et j'ai l'intention, lorsqu'elle reviendra, de lui demander justice contre ceux qui nous terrorisent et nous dénoncent. Justice contre les pies.
Un silence épais comme du sang à demi coagulé emplit la salle. Le ménestrel s'approcha de l'homme et posa la main sur son bras.
Elle ne peut rien pour nous dans ce domaine, Bosque. C'est à nous de nous débrouiller. Tu n'arriverais qu'à te mettre en plus grand danger encore, ainsi que ta femme et tes filles. »
Il parcourut la pièce d'un regard, où se lisait comme de l'appréhension, et mon cœur se serra soudain. Les membres du lignage se méfiaient les uns des autres. Les agents d'épi avaient pu se glisser dans le groupe même des émissaires. Cette idée pénétra sans bruit en chacun d'eux, et les glaça. Bientôt, plusieurs trouvèrent des prétextes pour regagner leur chambre, et la salle se vida rapidement. Seuls restèrent Mercureuil, assis devant la cheminée, le regard perdu dans les flammes, le ménestrel, qui déambulait sans but entre les sièges, et quelques autres, avares de paroles. J'entendis un bruit de frottement dans la galerie derrière moi, et un instant plus tard, Humbre me rejoignit.
« Du nouveau ? » murmura-t-il.
Je lui pris le poignet et lui transmis ce que j'avais vu. Son expression devint pensive, puis il dit à mi-voix
« Voilà qui donne une orientation nouvelle à mes réflexions. Ce ne serait pas la première fois que j'aurais tiré avantage d'une erreur. Poursuis ta surveillance, Fitz. »
Puis il ajouta comme s'il venait d'y songer
« As-tu faim ?»«
Un peu, mais ça ira. »
« Et notre prince ?»«
Je n'ai pas lieu de m'inquiéter pour lui. »
« Oh que si ! Si l'on peut craindre qu'il y ait des agents pis dans la salle devant nous, on peut imaginer qu'il s'en trouve parmi ceux qui le tiennent en otage. Préviens-le, mon garçon, et ouvre l'œil !»
Et il s'en alla, presque plié en deux dans le passage bas de plafond. Je le suivis du regard en me demandant ce qu'il avait derrière la tête, puis je contactai de voir. Tout allait bien de son côté. Il avait froid, il s'ennuyait, mais nul ne l'avait maltraité ni même insulté. La conversation avait consisté principalement en conjectures sur ce qui se passait à Castelserre. Apparemment, un oiseau, peut-être Risque ou le Faucon, effectuait de fréquents allers-retours pour transporter des messages, et les nouvelles se révélaient rassurantes jusque-là. Mais, selon Devoir, l'ambiance était à l'expectative et à l'inquiétude. Le travail de la vache se passa sans difficulté et elle donna le jour à un joli veau mâle. Sa compagne se réjouit que l'opération se fût déroulée dans un bâtiment fermé où régnait une température agréable, car le petit était né anormalement tôt dans la saison. Le temps que Tram et elle revinssent à la salle de réunion, l'heure du dîner avait déjà sonné. Les délégués du lignage se rassemblèrent tandis qu'on apportait le repas, puis ôtèrent leurs masques une fois les domestiques sortis. J'étudiais les traits de chacun avec soin, mais si l'un d'eux avait fait partie du groupe de Lodvin, je ne pus le reconnaître. Ils achevaient de se restaurer quand on frappa à la porte. Plusieurs d'entre eux crurent qu'on venait desservir la table et crièrent qu'ils n'avaient pas fini de manger. Alors une voix dit derrière lui
« Laissez-moi entrer ! Le lignage salue le lignage !»
Ce fut Tram qui se leva pour ouvrir. Il déverrouilla le loquet, tira le bâton, et Civil Brezinga entra, accompagné de son marguet. Sur la table, l'écureuil se mit à pousser de petits cris effrayés et escalada rapidement sa compagne de vif pour se cacher sous ses cheveux. Sans ciller, Par avança d'un pas flânant jusqu'au milieu de la salle. Jeta quelques regards alentour et alla s'installer devant la cheminée. En observant l'entrée du marguet, nul n'aurait pu douter qu'il était lié par le vif au jeune garçon qui referma doucement la porte, puis se tourna vers la tablée. Les regards qui l'accueillirent en auraient intimidé plus d'un. Néanmoins, Tram monta encore une fois au créneau, posa une main amicale sur l'épaule de Civil et déclara haut et fort
« Le lignage souhaite la bienvenue au lignage. Joignez-vous à nous, jeune homme. Comment vous appelez-vous »
L'intéressé prit une inspiration et carra les épaules. « Civil Brezinga. Aujourd'hui, Sir Civil Brezinga de Castelmyrt, sujet loyal de la reine Ketriken, ami et compagnon du prince de Voir loin-voyant. Je suis du lignage, et ma reine comme mon prince le savent. » Il se tut un instant, afin de permettre à ses interlocuteurs de se pénétrer de l'idée qu'il contemplait un aristocrate doué du vif et appartenant à la cour de Castelserre. « Je me présente à vous, à la demande du conseiller Imbre, pour vous dire comment on me traite ici, et aussi pour vous parler de mes démêlés avec l'épi, qui m'aurait certainement assassiné sans l'intervention des loin-voyants. » Je regardais la scène dans une sorte de stupeur, admirative. Son récit n'était absolument pas préparé, c'était évident. Il s'y avançait avec force des tours et devait souvent revenir sur ses pas afin d'expliquer certains événements antérieurs. Quand il évoqua ce que sa mère avait dû supporter et la mort qu'elle s'était donnée, sa voix s'étrangla et il dut s'interrompre. Tram le fit alors asseoir, lui servit du vin et lui tapota le dos d'une main apaisante, comme s'il n'était qu'un enfant. Je sillais soudain et me revis à 15 ans, plongé dans des intrigues qu'il m'était impossible de maîtriser, et je me rendis compte que, de fait, Civil n'était guère plus qu'un enfant. Doué du vif, constamment en danger, manipulé, acculé, obligé de jouer les espions pour sauver sa mère et sa fortune familiale, il avait échoué et s'était retrouvé orphelin, sans foyer, à la dérive, petit noble sans influence, dans une cour où le poids politique était prépondérant. Et, à dire le vrai, il était encore de ce monde uniquement parce qu'il jouissait de l'amitié d'un loin-voyant. Il l'avait trahi, non pas à une, mais deux reprises, et avait pourtant obtenu son pardon chaque fois.
« Ils m'ont donné asile, » dit-il en conclusion.
« La reine, le prince et le conseiller Imbre savent parfaitement que j'appartiens au lignage. Ils savent aussi qu'on m'a employé contre eux, et ce que cela m'a coûté. » Il s'interrompit et secoua la tête.
« Je n'ai pas le talent de manier les mots. Je ne suis pas capable d'établir les parallèles que je voudrais vous faire voir, mais ils ne me jugent pas sur mes actes passés. Ils ne jugent pas le lignage sur les attentats d'épi contre le prince. La reine ne rejette pas son fils, bien qu'il ait le vif. Ne pouvons-nous pas adopter la même attitude à leur égard ? Traiter avec les loin-voyants tels qu'ils sont aujourd'hui, sans nous appesantir sur le passé ?»
Mercureuil eut un grognement méprisant. Mais Genot, se reconnaissant peut-être dans cet aristocrate doué du vif, porteur d'un titre qu'il revendiquait lui-même, hocha la tête, la mine songeuse. Civil se tourna soudain vers Tram, et je sentis qu'une idée lui était venue, une idée que nul ne lui avait soufflée. Comme en réponse à ma prière fervente, j'entendis à nouveau le pas bruissant d'Imbre. À geste frénétique, je lui fis signe de me rejoindre et de se taire. Le jeune homme parlait à Tram, et sa voix nous parvenait à peine.
« Le conseiller Imbre m'a rapporté votre proposition d'inviter des gens du lignage à résider à Castelserre sans se cacher et à se mêler à ceux qui n'ont pas notre don, afin qu'ils se rendent compte que nous ne sommes pas des monstres et qu'ils n'ont rien à craindre. Il m'a aussi répété vos paroles. Celui qui n'a rien à perdre occupe souvent la meilleure position pour se sacrifier au bénéfice des autres. Je n'ai guère eu le loisir d'y réfléchir, mais je ne crois pas qu'il faille longtemps pour conclure que je n'ai plus rien à perdre. La seule menace qu'on pourrait brandir contre moi serait de m'ôter la vie. Je n'ai plus de parents qui risqueraient de souffrir de mes actes.
Il parcourut du regard les visages qui l'entouraient.
Nombre d'entre vous, je le sais, craignent de se faire tuer par leurs voisins s'ils se montrent au grand jour. Longtemps, trop longtemps, cette peur s'est révélée fondée, et je l'ai partagée ainsi que ma mère.
Il se tut brusquement. Puis il prit sur lui et poursuivit la voix rauque.
Nous sommes donc restés cachés, et ce faisant, nous avons permis à nos amis de nous éliminer. Je ne vois plus l'intérêt de me dissimuler.
L'émotion lui nouait-elle la gorge, ou bien s'interrompit-il pour songer à ce qu'il allait dire? Je l'ignore. Il jeta un coup d'œil à Tram et hocha la tête.
Tout le château a entendu parler désormais de Tram le Vifier, qui se promène parmi nous sans peur, ni hostilité. Je ressens presque de la honte à ce que lui, un étranger à Castelserre, ait eu le courage de se présenter en pleine lumière, tandis que moi, l'ami le plus proche du prince de Voir. Je n'ai jamais osé quitter les ombres, ni cesser de raser les murs. Demain cela changera. J'affirmerai fièrement mon appartenance au lignage, et jurerai de démontrer que quelqu'un comme moi peut être entièrement acquis à son prince, car il mérite ma fidélité. Je lui enseigne notre façon de vivre, et il apprend de tout cœur. Il m'a dit que lorsqu'il se rendrait au printemps dans les îles d'outre-mer pour tuer un dragon et obtenir la main de sa future épouse, je pourrais l'accompagner. J'irai à titre de compagnon doué du vif. Il n'y a pas de maître d'art à Castelserre, et mon prince partira seul, sans clan d'art, comme ceux dont disposaient autrefois les souverains loin-voyants. Puisqu'il est privé de cette magie, je mettrai la nôtre à son service, et je prouverai qu'elle est tout aussi efficace, je vous le promets. Je ferai à tous, et avec fierté, la démonstration de la magie du lignage.
La main d'Ambre crispée sur mon poignet me disait qu'il ne s'attendait nullement à cette déclaration. Il ignorait non seulement que Civil projetait de révéler publiquement son vif, mais aussi que Devoir lui avait laissé miroiter qu'il pourrait le suivre dans sa quête. Malgré son art erratique, il parvint à me contacter.
« Ai-je affirmé pouvoir changer une erreur en avantage? J'ai peur d'y être trop bien parvenu, et notre avantage risque de nous retomber sur le nez. Je souhaitais qu'il se dise satisfait de la façon dont la reine le traite, non qu'il endosse la fonction d'ambassadeur du lignage à la cour. »
Je répondis. Il ne voit pas le risque pour le prince de reconnaître qu'il a un ami dans le lignage. Il perçoit seulement le danger personnel qu'il court, et il est prêt à l'affronter pour Devoir. Croyez-vous pouvoir le dissuader?
Je ne sais pas si ce serait judicieux. Vois comme son ardeur capture leur imagination.
L'exaltation n'était pourtant pas à son comble. Seul Tram affichait un sourire radieux et affirmait bien haut la fierté que lui procurait Civil. Les autres, à l'exception de Mercureuil, qui gardait un air sombre, manifestaient leur approbation avec divers degrés de réserve. Le ménestrel et Genot paraissaient plus enthousiastes. Et la femme à la vache, déjà partiellement conquise grâce aux soins dont son animal avait été entouré, souriait avec douceur. Certains échangeaient des points de vue plus terre à terre. La reine ne pouvait guère faire exécuter Civil Brezinga alors qu'il lui avait demandé asile et qu'elle-même avait promis qu'aucun vifier ne se verrait plus condamné au seul motif de sa magie. Non, il ne craignait sans doute rien, et il n'était pas inconcevable qu'un jeune homme de haute naissance et de belle tournure à la fois parvint à gagner quelques partisans à la cause du lignage. Sa déclaration ne pouvait faire de mal à leur communauté. Soudain, le citadin, Bosque, s'approcha de Civil. Il se tordait tant les doigts qu'on eût cru qu'il voulait les arracher de ses mains. Il interrogea, hésitant.
« Les loin-voyants ont tué Dépi? Vous en êtes sûr ?»«
Oui, » répondit le jeune garçon à mi-voix. Il se toucha la gorge.
Tout à fait sûr.
Leur nom ? Fit l'homme dans un murmure.
Savez-vous leur nom ?
Civil se tut un moment, puis dit.
Kepler, Paget et Swoskin. C'est sous ces identités qu'il s'était présenté à moi. Mais le prince de Voir avait connu Kepler sous un autre nom à l'époque de son enlèvement par les Pies. Il l'appelait Lodvin.
Bosque secoua la tête, manifestement déçu. Mais une voix féminine répéta.
« Lodvin ?»
La femme s'avança. Il s'agissait de Mercureuil.
« C'est impossible. C'est le chef des Pies. S'il était mort, je l'aurais appris. »«
Vraiment ?» fit le ménestrel, la mine soudain menaçante.
« Oui, » répliqua-t-elle sèchement. « Tirez-en les conclusions que vous voulez. J'ai des relations qui connaissent Lodvin, et certaines font partie des Pies, en effet. Pour ma part, je ne suis pas des leurs, encore que les récents entretiens auxquels j'ai participé m'aient permis de mieux comprendre pourquoi ils en sont arrivés à de telles extrémités. »
Elle tourna le dos au ménestrel et demanda sèchement à Civil.
« Quand est-ce arrivé? Et quelle preuve avez-vous de ce que vous avancez ?»
Le jeune garçon recula d'un pas, mais répondit.
« Il y a plus d'un mois. Quant à vous fournir une preuve,
comment voulez-vous que je vous en donne une? J'ai vu ce que j'ai vu, mais je me suis sauvé dès que j'en ai eu l'occasion. J'ai honte de l'avouer, mais c'est ainsi.
Toutefois, je doute que les histoires qui se racontent à Bourg de Castelserre soient infondées. Un manchot et son cheval ont été tués, ainsi qu'un petit chien et les deux hommes qui se trouvaient dans la maison où s'est déroulée la scène.
« Son cheval aussi ?» s'exclama Mercureuil, et je la sentis accablée par cette double perte.
« Si c'est vrai, le coup est terrible pour les Pies, » dit Bosque.
« Ils pourraient bien sonner leur glas. »« Non, jamais !»
s'écria la femme avec violence.
« Les Pies ne s'arrêtent pas à un seul homme. » Ils ne cesseront pas le combat, tant que nous n'aurons pas obtenu justice. Justice et vengeance !»
Bosque se leva et s'approcha d'elle à pas lents, tandis que ses poings se serraient au bout de ses bras frêles. Son air menaçant aurait été risible s'il n'avait pas été aussi sincère.
« Je devrais peut-être me venger, moi aussi, quand l'occasion s'en présente. »
dit-il, le souffle court. Il poursuivit d'une voix au bord de la fêlure.
Si j'affichais un placard où je vous dénonçais comme vifière et qu'on brûle votre cadavre après vous avoir pendu, cela échaudrait-il vos amis Pies? Je devrais peut-être suivre votre conseil et leur infliger ce que j'ai moi-même subi? Bande d'imbéciles! Vous ne comprenez donc pas qu'ils se battent pour nous tous et qu'il faut les soutenir? J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Lodvin avait fait une découverte capable de jeter les loin-voyants à bas de leur trône. Peut-être a-t-il emporté son secret dans la tombe? Mais il est possible aussi qu'il l'ait confié à quelqu'un. L'imbécile, c'est vous ?
Intervint Civil.
Renverser les loin-voyants. Quelle idée de génie ! Éliminer la seule reine qui ait jamais tenté de mettre un terme aux exécutions, et qui gagnerez-vous ? Des persécutions à plus grande échelle encore ? Sans crainte de châtiment, ni d'interposition de la garde du royaume ? Si le lignage fait seulement mine de vouloir se débarrasser de la monarchie, on y verra la preuve que nous sommes aussi dangereux et sournois que l'affirment nos ennemis. Êtes-vous donc folle ?
Oui, répondit Tram d'un ton calme. C'est pourquoi il faut avoir pitié d'elle, non la condamner.
Je ne veux pas de votre pitié, cracha Mercureuil. Je n'ai besoin de la pitié de personne, ni de votre aide. Aplatissez-vous devant votre reine loin-voyant. Pardonnez tout ce qu'on vous a fait subir. Laissez-vous traiter comme des larbins. Moi, je ne pardonne rien. « Et l'heure viendra où j'aurai ma vengeance, je le jure !»«
Nous avons réussi, » me chuchota Humbre. « Enfin, il faudrait peut-être en remercier Mercureuil. Elle a poussé dans notre camp tous ceux qui ne rêvent ni de sang, ni de feu. Et c'est la majorité, je pense. Vois si je ne me trompe pas. »
Sur ces mots, il s'éloigna dans le boyau comme une grande araignée grise. Ce n'est que tard ce soir-là que je quittais enfin mon poste pour aller me restaurer et prendre du repos. Tout s'était déroulé comme il l'avait prévu. Civil demeura en compagnie des émissaires du lignage, et au retour de la reine, d'Imbre et des conseillers des six duchés, il s'avança devant eux, et se présenta comme un noble doué du vif. Je vis le trouble envahir l'expression des délégués quand il leur assura que dans chaque duché existait une aristocratie vifière, contrainte depuis des générations à garder secrète sa magie. Plusieurs des jeunes gens à qui il s'adressait le connaissaient bien. Ils avaient chevauché, bu et joué en sa compagnie. À présent,
Ils échangeaient des regards où se lisait clairement cette question. S'il a le vif, qui d'autre parmi nous le possède? Mais Civil, sans remarquer leur attitude réservée ou sans y prêter attention, poursuivit sa déclaration. Il comptait désormais faire briller vivement la flamme de sa magie au service du prince de Voir et de la couronne loinvoyant. Et alors qu'il en prêtait solennellement serment, je crus voir une admiration contrainte se peindre sur les traits des trois délégués du royaume. Peut-être ce jeune homme du lignage parviendrait-il à leur prouver l'erreur de leurs préjugés. Le dernier jour d'assemblée fut marqué par d'évidents progrès. Le ménestrel y apparut à visage découvert et demanda la permission à sa majesté de rester à la cour. La reine remit à ses représentants des duchés une proclamation selon laquelle, dorénavant, aucune exécution ne pouvait légalement avoir lieu sans l'aval de la maison régnante de chaque duché, et le chef de chaque maison était tenu pour responsable des injustices commises dans ses frontières. Un seul gibet devait désormais se dresser dans chaque duché et rester sous l'autorité de la maison ducale. Non seulement chacune des six divisions du royaume avait le devoir d'empêcher ses autorités locales d'exécuter sommairement des prisonniers, mais les ducs et duchesses avaient l'obligation d'étudier personnellement chaque cas. Toute mise à mort en dehors de ces règles serait considérée comme un meurtre, et l'on pourrait faire appel à la reine elle-même pour procéder au jugement de l'assassin. Ces décrets ne réglaient pas le problème de la façon dont les gens du lignage pourraient présenter leurs accusations sans crainte de représailles, mais ils avaient au moins le mérite d'établir formellement les conséquences qu'entraînerait toute tentative de vengeance. C'est par des pas de fourmis comme cela que nous avancerions. Imbre me l'assura. Quand, avec la garde royale, j'escortais nos délégués du lignage pour les ramener à leurs amis et recevoir en échange notre prince et laurier, j'observais chez eux un net changement. Ils bavardaient et riaient entre eux, et s'adressaient même parfois aux gardes. La femme à la vache, sa compagne et son veau derrière elle, chevauchaient aux côtés de Civil Brezinga, et paraissaient prendre comme un grand honneur que le jeune aristocrate distingué s'entretint avec elle. Genot se trouvait sur l'autre flanc de Civil. Ses efforts évidents pour se montrer au parage du seigneur Brezinga se voyaient sapés par l'attitude égalitaire du jeune homme à l'égard de la femme à la vache. Le marguet de Civil était couché derrière lui sur son coussin de sel. Dans toute la forêt, le manteau de neige s'était réduit à de minces doigts glacés qui s'accrochaient au sol dans les zones d'ombre. De jeunes pousses commençaient à braver le monde ensoleillé, et la brise légère qui soufflait sur nous semblait un vent de changement. Dans notre groupe, Mercureuil restait seul et se taisait. Tram avait pris place à côté de moi et discourait de tout et de rien. La reine et Imbre avaient insisté pour qu'il nous accompagne afin que tous puissent attester qu'il retournait au château de Castelserre de son plein gré. Quand nous arrivâmes au lieu de rendez-vous, Par manifesta autant que Civil sa joie de revoir le prince. Pour sa part, Devoir témoigna ostensiblement sa surprise et son plaisir à constater qu'ils étaient venus à sa rencontre. Et l'accueil chaleureux qu'il fit à son ami et à son animal de vif impressionna vivement les membres du lignage, autant ceux qui revenaient de Castelserre que ceux qui les avaient attendus. Naturellement, je l'avais prévenu par l'art de la présence, parmi nous, de son ami. Nous prîmes le chemin du retour en compagnie non seulement du prince et de Laurier, mais aussi de Tram et du ménestrel, dont le nom était Niel. Il se mit à chanter, et je serrai les dents lorsqu'il entonna « La tour de l'île de l'Andouillé ». Ce lait dégoulinant d'émotions et de mièvrerie racontait la défense de l'île de l'Andouillé contre les pirates rouges en mettant l'accent sur le rôle joué par le fils bâtard de chevalerie. J'avais participé à cette bataille, en effet, mais une bonne moitié des exploits attribués à Mâche me laissait dubitatif. Tram m'éclata de rire devant mon expression chagrine. « Ne faites pas cette tête, Tom. Reconnaissez que le bâtard au vif est un héros commun à nos deux groupes. Il appartenait à la fois à Castelserre et au lignage. » Et de sa voix de basse, il se joignit au ménestrel pour chanter la strophe sur le « fils de chevalerie aux yeux ardents » dont à défaut du nom il partageait le sang. « N'est-ce pas Astéry qui a écrit cette ballade ?» demanda Devoir avec une inquiétude feinte. Elle risque de ne pas apprécier que Niel la chante à Castelserre. Elle ne serait pas la seule.
Je pourrais bien étrangler moi-même ce ménestrel pour lui économiser la peine. Néanmoins, au refrain suivant, non seulement civils et devoirs se joignirent au chant, mais la moitié des gardes aussi. Je songeais que c'était l'effet d'une première journée de printemps, et je formais le vœu fervent qu'il se dissipât rapidement.